Double expérience sensorielle ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question du Japon, de Martin Luther King, de drones, d'autodafé et même de typhons. Avec Noémie Kawase qui signe Still the Water ou comment filmer la possibilité du Nil pour accéder à la paix amoureuse et spirituelle, Lucille Como.
Portrait d'une cinéaste habitée par les petits dieux de la culture japonaise et qui filme pour la première fois la mer dans la lumière de l'été.
19h30, place nette pour Xavier Delaporte et sa chronique Place de la Toile. Ce soir au programme, Xavier ?
Ce que vous faites dans votre lit.
Ouais, ça commence par un B ou par un D. Qu'est-ce que vous préférez ?
Par un B.
D'accord, c'est pas très ça. Bien. Plateau exposition, plus tard avec Tania Moreau qui titre Ad Nauseam, son intervention au Macval de Vitry, une tension entre intérieur et extérieur du musée, ou comment travailler la durée de l'art à travers le wall painting et la monumentalité frontale et efficace d'une installation vidéo, Lucille Como.
Retour sur le parcours d'une des premières artistes qui a placardé dans la ville des panneaux monumentaux, ou comment réinterroger la place des écritures dans l'espace.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le nouveau journal de la culture de Zoé Sfez, mais jusqu'à quand ?
Est-ce qu'il faudra une loi ?
Écoutez, pour l'instant, laissons toute sa chance à la négociation. Moi, je souhaite vraiment que cette concertation produise des effets, qu'on trouve des solutions dans le dialogue. C'est un peu la marque de ce gouvernement. Et donc, je voudrais d'abord qu'on se concentre sur cette concertation et qu'elle puisse aboutir. C'est mon souhait le plus cher.
Bonjour, plutôt bonsoir Zoé Sfez, c'est votre son du jour, de ce matin même.
Oui, il parle d'intermittent du spectacle, même si le mot n'a pas été prononcé. C'est Fleur Pellerin, notre ministre de la Culture, qui a fait un léger rétropédalage sur la question de l'indemnité chômage des intermittents. En début de semaine, vous vous en rappelez peut-être, elle s'était dit prête à légiférer sur la question si aucun compromis n'était trouvé. Là, vous l'entendez, eh bien, elle revient à sa ligne de départ, à la concertation d'abord, et ensuite on verra.
On passe maintenant à votre dossier du jour. La France, par la voix de Manuel Valls, vient d'accepter d'être l'invité d'honneur de la Foire du Livre de Francfort en 2017. Mais une annonce qui arrive tard.
Très tard en effet. Jürgen Boss, le patron de ce qui est aujourd'hui la plus grande foire du livre au monde, a fait cette invitation il y a plus d'un an. Il a attendu, et il a fini par pousser un grand coup de gueule dans les pages du Nouvel Observateur la semaine dernière en exigeant absolument une réponse. 3 jours plus tard, Manuel Valls annonçait qu'on irait. Et de fait, cette invitation, c'est une opportunité énorme. Beaucoup de pays se battent pour obtenir cet honneur et la France a beaucoup de cartes à jouer à Francfort. Vincent Monadet est président du Centre National du Livre.
Premier point positif, c'est que ça claque le bec à tous ceux qui parlent de déclin de la culture française. Le rayonnement de la littérature française est encore suffisamment fort pour que ce soit la foire de Francfort elle-même qui vienne nous chercher plutôt que ce qui se fait d'habitude, les pays qui demandent. Deuxième point très positif, c'est que cette culture déjà très implantée en Allemagne va pouvoir se faire encore mieux découvrir et notamment j'espère que des jeunes auteurs non encore traduits seront traduits. Et enfin, troisième point, évidemment celui sur les relations franco-allemandes dans le domaine de la culture où nous avons des positions communes très fortes qui nous permettent de défendre ensemble à Bruxelles des choses comme le droit d'auteur, l'interopérabilité des fichiers, la capacité des États à réguler leurs lois par des lois sur le prix unique du livre ou le prix unique du livre numérique. Voilà.
Si malgré ces opportunités fantastiques, la France a tant hésité, eh bien c'est à cause de l'argent.
Bien sûr, c'est toujours le nerf de la guerre car une telle opération va coûter évidemment très cher, entre 5 et 8 millions d'euros selon les sources. Toute la question, eh bien, pendant un an, ça a été qui va payer cette somme ? Les éditeurs, le gouvernement, le Centre National du Livre se sont renvoyés la balle pour finalement tomber d'accord sur le fait que tout le monde doit un petit peu mettre la main à la poche, notamment les éditeurs. Alors, dans quelle mesure, là, les choses ne sont pas tout à fait claires ? Écoutez, Françoise Nissen, la directrice des éditions Actes Sud.
Le chemin était peut-être un peu chaotique, parce que tout le monde, dans des périodes où les finances sont ce qu'elles sont, compte tenu de ce qu'est l'économie, peut-être que tout le monde se disait « Oh là là, si le ministère dit oui, oh là là, il faudrait falloir que je trouve des crédits, etc. etc. » C'est difficile, c'est pas facile, à partir du moment où il y a quand même de l'argent à débourser. Mais je crois que globalement, si tout le monde coopère, on arrivera à trouver des choses. S'il y a lieu d'incarner ce que ça veut dire l'édition en France et la collaboration en Europe pour installer un prix unique du livre papier et du livre numérique, s'il faut faire sa part, on fera sa part. Voilà, et on verra comment on la fera.
Mais manifestement, rien n'est clair. L'un des interlocuteurs les plus sollicités, c'est évidemment le Centre National du Livre.
Qui, évidemment, n'a pas les moyens d'assurer tout ça tout seul. Là encore, Vincent Monadet, son président, est prêt lui aussi à faire un petit effort s'il n'est pas tout seul à le faire.
Le Centre National du Livre participera à Francfort, comme il le fait chaque année, à travers le stand du Bureau international de l'édition française, qui est que si on lui demande une contribution exceptionnelle et que si cette demande vient de sa tutelle, qui est la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, il s'adaptera à la demande de la ministre. Moi, je repère dans le communiqué de presse qu'ont publié ensemble Laurent Fabius et Fleur Pellerin cette formidable idée de la francophonie. Moi, je crois que nous avons la chance d'avoir le deuxième bassin linguistique mondial et qu'il faut utiliser cette force pour porter, bien sûr, l'édition française et les auteurs français en avant, mais aussi tous ces très grands auteurs qui font la francophonie, tous ceux qui, au-delà de la France, ont la langue française en partage.
Mais alors pourquoi Vincent Monnadet nous parle maintenant de la francophonie ? Quel rapport ?
Parce que, évidemment, on pourrait mettre les pays de la francophonie à contribution pour cette invitation. C'est d'ailleurs la ligne défendue par le ministère de la Culture. On indique qu'on va tenter de partager les coûts avec le ministère des Affaires étrangères, les acteurs du métier du livre, mais aussi, pourquoi pas, avec d'autres pays qui aimeraient être là et, pourquoi pas, avec des mécènes privés. Et après avoir fait tant d'efforts, on espère bien que l'Allemagne va nous rendre la politesse, car c'est aussi là que ça coince. Berlin, de son côté, a tendance à un peu négliger le Salon du Livre. Écoutez, Christine Demazière, déléguée générale du syndicat de l'édition.
Nous avons 50 pays qui ont des stands au Salon du Livre de Paris, dont l'Allemagne, traditionnellement. Ce n'est pas des pays à l'honneur, mais c'est des stands habituels. Et l'année prochaine, en 2015, pour la première fois, l'Allemagne ne viendra pas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais voilà, on espère qu'ils pourront revenir sur cette décision-là et puis surtout préparer une invitation d'honneur eux-mêmes aussi en retour de celle de la France à Francfort.
Car juste retour de bâton, eh bien l'Allemagne va elle aussi recevoir une invitation officielle pour être l'invité d'honneur du Salon du Livre bientôt. Et on espère qu'elle sera un peu plus rapide que la France à répondre.
On passe tout de suite au bref.
Et on ouvre avec la disparition à 77 ans de Gérard Violette, l'un des directeurs emblématiques du Théâtre de la Ville à Paris, de 1985 à 2008. Inlassable découvreur d'artistes, il a contribué à la visibilité de la nouvelle génération de chorégraphes comme Pina Bausch, Anna Teresa de Kersmaker, Alain Platel, Trisha Brown et j'en passe. Il a aussi fait une large place à la musique traditionnelle.
Disparition aussi de l'immense chorégraphe japonaise Carlota Ikeda.
Elle s'est éteinte à Bordeaux à 73 ans, originaire du village de Fukui, elle était évidemment l'une des rares femmes spécialistes du buto, danse traditionnelle japonaise qu'elle avait revisitée avec des accents modernes. Elle préparait justement un nouveau spectacle à Bordeaux.
Nouvelle destruction en Irak.
Les djihadistes du groupe État islamique qui occupent la ville de Tikrit maintenant en Irak ont en effet fait exploser la mosquée Al-Arbaïn, lieu de sépulture de 40 figures de l'islam, dont plusieurs compagnons du prophète Mahomet. Ils ont aussi posé des explosifs dans l'église verte, c'est une église creusée dans la roche qui a plus de 1000 ans.
Et la dernière.
C'est une histoire de records, de super-héros et de monde plus juste. Vous allez me dire, tout ça, ça va un peu ensemble. Dans la petite ville de Calgary, dans l'État canadien d'Alberta, il existe une entreprise particulièrement philanthrope, Nexen. Ce sont essentiellement des informaticiens, mais des informaticiens sympas, qui n'ont pas peur du ridicule. Ils ne cessent d'organiser des événements en faveur d'organisations caritatives, des lip-dubs, des happenings et
des
tout ça.
Lip-dubs,
des lip-dubs, c'est des films où on se filme, on fait des plans séquences et on se balade dans sa boîte. Et là, ils ont fait mieux. Ils se sont mobilisés mardi. Les 542 employés de l'entreprise ont revêtu un magnifique costume de Batman et ils ont pris la pose devant leur entreprise pour entrer dans le Guinness Book des records en tant que plus grand rassemblement au monde des gens déguisés en Batman. Ça existe.
Bah oui, il vient de l'inventer.
Non, il existe depuis 45 ans ce record et c'est ça qui est beau. Des gens à chaque fois tentent de se mettre la barre plus haut. Voilà. Plus de 4000, on serait pas mal. Le dernier record en date, ça n'avait réuni que 250 personnes. Tout ça pour promouvoir l'éducation et la santé dans le monde. Le chevalier noir n'aurait pas à en rougir.
Ça se passe de commentaires. On commence.
19h20, le rendez-vous. C'est sur France Culture.
Plateau Typhon avec vous, Naomi Kawase, cinéaste japonaise, héroïne récurrente du Festival de Cannes où vous avez reçu une caméra d'or en 97, le Grand Prix en 2007 pour La Forêt de Mogari, et vous y aviez présenté lors de la dernière édition votre 9e long métrage, Still the Water, qui va sortir en salle la semaine prochaine. Nous sommes sur l'île japonaise d'Amami, une île magnifique, luxuriante et inquiétante à la fois, où chaque arbre, chaque pierre est le signe du divin. Et tout commence à s'ouvre sur la découverte d'un corps d'homme échoué sur la plage. Mais le film va vite se réorienter sur la possibilité d'une relation amoureuse entre Kaito, qui est hanté, un jeune homme qui est hanté par la disparition, ou plutôt par la séparation de son père et de sa mère, et Kyoko, une jeune fille qui, elle, fait face à la maladie de sa mère. Et le film va être l'histoire d'une initiation croisée à l'amour, à la mort et à la spiritualité. Ambiance.
« 海人。母さん、あんま良くないんだ。あんた、また服のまま海に入ったとね。
Je reste sur le son de la mer, car c'est la première fois que vous la filmez, Naomi Kawase, vous qui avez été élevée dans les terres et qui avez surtout filmé la forêt. Est-ce que ça a modifié quelque chose dans votre cinéma, dans le format que vous avez choisi, dans la lumière que vous avez travaillée, dans le cadre de filmer la mer ?
C'est vrai que c'est la première fois de ma vie que je filme la mer et ça a beaucoup changé. Évidemment. Et j'ai, surtout ce que j'ai appris, c'est que pour les hommes qui vivent sur la Terre, pour les personnes qui vivent sur la Terre, c'est très difficile de comprendre un univers marin. Et pour chacun des acteurs, j'ai demandé à ce que les acteurs viennent 3 semaines à l'avance pour qu'ils commencent à s'imprégner de cette vie maritime. Quand on vit sur le long de la mer, on regarde la mer et on peut considérer que la mer est peut-être une tombe, parce que si on ne sait pas nager, on meurt dans la mer. Et d'ailleurs, dans l'île, on considère qu'au-delà de la mer, il y a une autre île, et c'est l'île de la mort. Et par contre, pour les gens qui vivent, qui regardent, ceux qui sont dans la mer et regardent la terre, c'est le lieu de la mort. Donc, les êtres humains qui vivent en bord de mer sont toujours en train de rencontrer des paradoxes, un paradoxe de ici la vie, là la mort, ou ici la mort, là la vie. Et c'est ça que j'ai voulu, c'est pas la façon de filmer qui a changé, c'était mon approche du monde.
Est-ce que par exemple, le fait d'utiliser cette fois-ci le scope, ce format-là, c'était lié aussi à ce changement de régime, c'est-à-dire la mer ?
La nature tellement impressionnante de Amami, c'est la mer. Donc pour exprimer ce monde extraordinaire, il n'y avait pas d'autre chose que le cinémascope. C'était tout à fait imposé par le paysage de la mer.
Lucille Comeau.
Alors pendant le tournage, il y a eu un typhon sur l'île. Il y a d'ailleurs plusieurs scènes qui sont filmées pendant le typhon, notamment une en extérieur qui est très impressionnante à l'écran. Est-ce que vous aimez travailler avec ce qui peut arriver et ce que vous ne pouvez pas maîtriser, Naomi Kawase ?
Oui, j'aime beaucoup filmer ce qui est imprévisible ou imprévu. Je crois que ça représente la vie, en fait, parce que quand vous allez vous préparer, il y a toujours quelque chose d'imprévu ou d'imprévisible qui peut se présenter. Et donc, je pense que le cinéma permet de saisir ces moments où l'on peut reproduire ces moments imprévus. Imprévu.
Alors, comme toujours chez vous, la lumière est absolument fondamentale. Cette fois, vous avez fait appel à un chef opérateur. Or, auparavant, vous signiez vous-même la photographie de vos films. Pourquoi cette fois-ci fallait-il changer, Naomi Kawase ?
Non, il a déjà filmé dans mon film Shara. C'était lui qui était mon chef-op. Il comprend très bien ce que je désire. C'est lui qui comprend le plus vite. Je n'ai même pas besoin de lui expliquer. Il comprend. C'est celui qui me comprend le mieux. Et en fait, il vient du documentaire. Et il est très habile à saisir ce qui se produit dans l'instant. Et il est très, très fort.
Et
en plus, il sait très très bien utiliser la lumière naturelle. Il aime travailler sur la lumière, mais il aime beaucoup utiliser la lumière naturelle et s'en servir pour mieux raconter l'histoire. Il est particulièrement habile à cela.
Vous aimez les micros, hein ? Fanny Moreau, vous aussi, tout à l'heure on parlera de la façon que vous avez de filmer pour vos propres vidéos. La lumière, comment vous la travaillez? Est-ce que vous la travaillez vous-même, cette lumière?
Je ne travaille pas vraiment la lumière, par contre je travaille l'étalonnage. En fait, je filme, je fais le montage et je fais l'étalonnage moi-même. Souvent, je fais le son.
Et ça, on va en parler tout à l'heure. C'est très important, le son.
Et
on en parlera.
Exceptionnellement, ouais. J'ai demandé l'aide de l'IRCAM.
De l'IRCAM, cette fois-ci, oui.
Cette fois-ci.
On va parler tout à l'heure de ce travail véritablement sur le son qui est absolument important. Naomi Kawase, vous avez suivi, vous, des études de photographie. À quoi ressemblaient vos premières photographies? Quel en était le sujet?
Mon
sujet d'étude était de concrétiser les objets de ma vie quotidienne, de filmer, de photographier tout ce qui m'approchait le plus. Donc, saisho no Donc je suis sortie en ville et j'ai filmé, et j'ai photographié des choses qui me tombaient sous les yeux dans la vie quotidienne. Tout ce qui m'intéressait. Et ce qui m'intéressait, c'était de me rapprocher le plus possible de ces objets de la vie quotidienne. Moi, je me souviens d'une tulipe en particulier que j'ai approchée, que j'ai essayé de filmer, de photographier le mieux possible.
Tani Moreau, votre pratique de la photographie, ça passait par quoi?
C'était dans les années 70, c'était de la photo, au départ, de la photo de famille, où on refotographiait dans les livres les photos des autres pour les utiliser. Après, j'ai traîné au palace pendant des nuits et des nuits, et j'ai photographié à une vitesse très lente, ce qui, pour moi, c'était faire de la peinture avec l'appareil photo. J'ai aussi marché dans les rues de Paris comme adjet, et j'ai photographié le kitsch dans les vitrines. J'ai à peu près 6000 photos de ces photos. Et récemment, j'ai photographié dans les ballots de paille à la campagne, recouverts de plastique noir. J'ai fait des snapshots et les gens croient que c'est de la peinture. Et mon dernier travail est dans les mines de lignite à ciel ouvert. Et c'est carrément la destruction absolue de la terre en Allemagne au nom de l'écologie.
Et là encore, il y a une dimension picturale?
Complètement.
Ah oui, d'accord.
Complètement. En fait, une dimension à la Caspar Friedrich, derrière la beauté, l'horreur.
Quel programme, Lucille Cobo.
Naomi Kawase, vous êtes une exception culturelle, une des rares femmes cinéastes au Japon, peut-être même la seule. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène?
Il y a quand même des femmes réalisatrices. Je ne sais pas très bien l'expliquer. C'est vrai qu'au Japon, les femmes sont encore un peu en retard sur le plan de la société. Elles ont du mal à émerger à l'avant de la scène. Elles préfèrent s'occuper de leurs enfants. Et on pense qu'elles préfèrent s'occuper de leurs enfants ou s'occuper de leur maison. Elles ne sont pas élevées dans cette perspective de sortir et de faire des choses dans le monde. On pense que les femmes ne sont pas douées comme ça pour cela. Et c'est pour ça qu'au Japon, c'est assez difficile de sortir du rang. Mais je pense quand même que malgré cela, il y a des femmes qui ont quand même le pouvoir d'observation et qui, brûlant de ce désir de transmettre et de s'exprimer, commencent à prendre leur place.
Vous, ça a commencé très tôt, parce que ça a commencé au début des années 90. Vous aviez réalisé plusieurs vidéos expérimentales, un collage aussi sur votre père disparu, un petit film qui s'appelait Mémoire du vent, dans lequel vous échangiez des objets dans la rue avec des passants, ou encore Je me focalise sur ce qui m'intéresse, un petit film en 8 mm pendant vos études. Je me demandais qu'est-ce que vous aviez gardé de ces expériences-là dans votre cinéma plus tard, dans la façon de construire les plans, dans le rythme.
C'est quelque chose qu'on peut retrouver parce que quand je vous ai parlé tout à l'heure de la tulipe,
Au moment où je photographiais la tulipe,
j'avais l'impression de me trouver, de me projeter dans la tulipe. Et j'avais l'impression que je faisais partie de la tulipe que je photographiais. C'est-à-dire que ma subjectivité se fondait dans l'objectivité de la tulipe. Donc dans l'expression, je crois qu'il y a la part de la personne qui regarde, qui se projette dans ce que l'on vous montre, ce que l'on montre. Et quand j'ai utilisé la caméra pour filmer, j'ai continué à penser comme cela. Je fais partie de l'objet que je filme.
Lucille.
À cette époque, Naomi Kawase, à l'époque de vos études, vous avez découvert le cinéma de la nouvelle vague française, notamment Jean-Luc Godard. En quoi est-ce que ces films ont pu être une référence pour vous à ce moment-là ?
Quand j'ai vu les films de Godard, j'étais très surprise. Les images, c'est incroyable. Et j'ai pensé que c'était vraiment plaisant de voir la façon dont ils utilisaient les images.
Avant d'entrer
dans cette école des beaux-arts d'Osaka, j'avais vu des films, mais c'était des films très simples, des histoires très très simples. Et là, tout d'un coup, en voyant les films de Godard, j'étais impressionnée par la force de ces images, ce que les images peuvent raconter.
Ça, c'est intéressant parce que manifestement, tous les cinéastes japonais qu'on a reçus, comme Koreeda aussi, c'est pareil, c'est vraiment Godard qui a été une référence. C'est quelque chose que l'on retrouve aussi dans votre parcours, Tania Mouro, dans le catalogue de l'exposition dont on parlera tout à l'heure. Vous mentionnez deux cinéastes, Eisenstein et Godard. Comment fonctionne la référence à Godard pour vous ?
J'ai été fascinée dans Godard par son questionnement sur la peinture, la vidéo.
Il était lui-même peintre d'ailleurs.
Voilà, et c'est vraiment, je crois que c'est vraiment, personnellement je viens de la peinture, en ce sens que j'ai traîné toute mon enfance au Louvre, d'après mon programme d'histoire. Et justement, lorsque j'étais à Lonne, mon système de référence, c'est la peinture. C'est pas le film. sauf si c'est en noir et blanc, évidemment, j'ai Eisenstein dans la tête. Et donc, je crois que ça a été pour moi, et particulièrement dans le film Passion
bien sûr.
Ça a été pour moi une révélation. Et donc, ça a été une révélation au moment où je l'ai vu, ça s'est ancré. Et lorsque j'étalonne, du reste, il y a plein de films que j'ai faits où les gens pensent à Rembrandt, etc. Parce que j'ai en tête tous ces tableaux que j'ai vus dans mon enfance.
Lucille.
Naomi Kawase, c'est la première fois que vous avez écrit un scénario fixe avant le tournage. Qu'est-ce qui rendait pour ce film-là cette écriture préalable nécessaire ?
J'ai déjà écrit des scénarios avant, mais c'est vrai que pour ce film-ci, c'est la première fois que j'ai fait un film avec des scénarios, avec des dialogues aussi écrits, c'est vrai.
なぜでしょうか?なぜ?なぜ?書く必要性があったんですか?
Il
起用しているということや。
Le fait que j'ai besoin d'un scénario, c'est parce que j'avais beaucoup d'acteurs et qu'il fallait qu'ils comprennent bien profondément. Et je voulais bien qu'ils comprennent ce que je voulais faire dans ce film et je voulais que non seulement ils connaissent leur dialogue, mais que tous les participants au film comprennent bien. Et puis aussi, il y avait quelque chose, il y avait de l'argent français. Enfin, ce film est une coproduction, donc il fallait faire comprendre. Et j'ai pensé que pour avoir le financement assuré de ce film, c'était pas mal d'avoir un scénario à montrer et ça permettait.
Ah ben à un moment donné, il faut bien donner un scénario. Même si quelquefois, par exemple, chez Godard, ça se limite à quelques lignes sur un papier. À propos d'écriture, je sais que vous signez des romans, mais c'est assez étrange parce que vous signez des romans qui viennent après les films, avec les mêmes titres quelquefois que les films. C'est peu courant parce que généralement, le cinéma est l'adaptation de textes. Vous avez besoin du cinéma pour vous mettre à écrire, Naomi Kawase ?
Les images, c'est très concret, en fait. Donc, si je veux exprimer quelque chose de plus abstrait sur les choses que l'on ne voit pas, je pense que la littérature, l'écriture est plus propice à parler de ce que l'on ne voit pas. Je crois que la façon de s'exprimer est différente, que c'est pas pour parler de choses qu'on ne voit pas.
Lucille ?
Écrire est mieux.
Vous parliez tout à l'heure, Naomi Kawase, des acteurs. Vous employez souvent dans vos films des comédiens non professionnels et souvent pour jouer les jeunes personnages de vos films. Là, c'est à nouveau le cas pour les rôles des jeunes gens, Kyoko et Kaito. Qu'est-ce qui rendait nécessaire ce choix-là des acteurs non professionnels ?
Kyoko est une actrice professionnelle. Enfin, elle n'a pas beaucoup d'expérience, mais elle a déjà joué des rôles. C'est vrai que Kaito, c'est son premier rôle. Moi, je trouve que c'est pas mal d'utiliser de demander à des acteurs non professionnels, surtout des débutants, de façon à leur donner des chances.
Et puis,
c'est vrai aussi que dans La forêt de Mogari, j'ai demandé le personnage du vieillard était joué par un non professionnel aussi. Et c'est pas forcément un jeune à qui on veut donner une chance non plus. Alors,
vous vous méfiez du star system ?
Star system, o kirai desu ka? Star system.
Shiranai dake kamoshiremasen.
Kirai ka dou ka? Non, c'est pas, je veux pas dire je m'en méfie, mais je le connais pas bien et je peux pas entrer dedans.
Alors Naomi Kawase, on vous a demandé comme un tous nos invités d'apporter un son qui vous a marqué. Bizarrement, c'est celui-ci. Je n'aurais jamais pensé ça de vous, Naomi Kawase. Quel est ce son qui est si éloigné de notre univers cinématographique?
C'est un artiste japonais qui s'appelle Sakanakshon.
Ruki.
Ruki.
Et alors, quelle est votre relation à ce son?
J'ai aucune relation avec ce son, c'est pour ça que je pensais que c'était pas mal.
Très bien, en effet.
Le rendez-vous. Rendez-vous. La chronique.
Naomi Kawase et Tania Mour, on vous retrouve dans quelques instants, mais d'abord c'est la chronique Place sur la toile, Place Nette, telle qu'on l'a baptisée nous de notre côté, avec Xavier Delaporte. Et ce soir donc,
bonsoir,
qu'est-ce qu'on fait dans un lit? Mais on va voir.
Ouais, ça c'est l'aboutissement de la chronique, parce que le point de départ c'est un sondage. Hier, l'Institut de sondage TNS Sofres a publié une étude sur les pratiques numériques des Français. Alors les résultats sont pas inintéressants. Alors on peut en retenir quelques-uns et en faire quelques commentaires. Alors d'abord, en moyenne, un internaute français possède 4,6 appareils numériques. C'est dans la moyenne des pays étudiés, 4,8 au Royaume-Uni, 4,4 aux États-Unis, 4,5 au Japon. Mais c'est surtout absurde. Pourquoi a-t-on besoin de 4,6 outils numériques? Un peu de décroissance, je pense, ne ferait pas de mal. Alors, autre chiffre qui n'est pas inintéressant, chaque jour, les Français passent en moyenne 3,3 heures sur Internet et 2,3 heures devant la télé. Si vous faites une addition rapide, vous obtenez que les Français passent plus de 5 heures par jour devant des écrans. C'est incroyable, vous dites-vous. Mais en fait, c'est ne pas tenir compte d'une pratique très répandue aujourd'hui, qui est le multi-écran. Près de la moitié des internautes, figurez-vous, français, et puis c'est pareil dans le monde, sont sur Internet pendant que la télé est allumée, ce qui pose une question, à quoi sert la télévision si on la regarde en faisant autre chose, autrement dit si on ne la regarde pas. Mais surtout, 20% des internautes français consultent, et c'est là où on arrive à la question du lit, Laurent, parce que je vois tout ça ne vous intéresse absolument pas, ce qui vous intéresse c'est ce qu'on fait dans un lit, évidemment. 20% des internautes français consultent leur mobile dans leur lit le matin avant même de se lever. Alors, je pense qu'il faut prendre la mesure de cette nouvelle, d'autant que, si on va regarder du côté des Asiatiques, qui sont souvent précurseurs en matière d'usage numérique, et en particulier en matière d'usage du téléphone, ce sont 45% des habitants de Hong Kong qui consultent chaque matin leur mobile avant de se lever. Alors, on peut s'en effrayer, en appeler à l'addiction, utiliser tous ces concepts gros comme des dents creuses, comme le disait joliment Gilles Deleuze, mais on peut aussi chercher à comprendre ce que tout ça signifie.
D'abord, on y va.
Ça signifie que nous sommes attentifs au monde qui nous entoure. Parce que se saisir de son téléphone avant même de se lever, c'est être curieux de savoir ce qui s'est passé pendant qu'on dormait. Alors, à des échelles de proximité variables, évidemment, nous sommes sans doute plus nombreux à vouloir savoir ce qu'a raconté un tel ou une telle de nos copains ou nos copines sur les réseaux sociaux, plutôt qu'à vouloir absolument connaître à quelle peine les Chinois ont condamné, par exemple, tel intellectuel ouïghour pacifiquement nationaliste. Néanmoins, c'est une forme de curiosité, même à minima, pour le monde que manifeste geste donc de saisir son mobile avant de se lever. Ça signifie aussi, deuxième interprétation, que nous dormons avec notre mobile tout près de nous. De manière tout à fait ascientifique, c'est-à-dire en discutant de tout et de rien avec ces gens qu'on appelle les jeunes, et qui désignent l'ensemble des personnes qui sont moins âgées que la personne qui emploie ce terme. Donc,
je me suis aperçu que... Ça devient de plus en plus facile.
Que, de quoi ?
Plus on vieillit, plus c'est facile.
Oui, c'est vrai, plus on a de jeunes, c'est ça qui est
plus
bien.
Plus il y a des jeunes.
La population est énorme. Je me suis aperçu donc que les jeunes gardent systématiquement leur téléphone près d'eux, voire dans leur lit, et l'éteignent rarement, le mettant plus souvent sur vibreur pour pouvoir quand même savoir au cas où il se passerait quelque chose, etc. Mais ça ne les réveille pas, mais ce n'est pas grave. Cela corrobore la théorie de cet intellectuel américain dont le nom m'échappe tout à coup, mais qui explique que le numérique donc, est un des moyens par lesquels le capitalisme pénètre dans le dernier espace qui était jusqu'ici préservé, à savoir le sommeil. Dernière chose, cela, à mon sens, le fait donc de consulter son téléphone mobile avant de se lever, cela requalifie le lit. Cela donne un sens nouveau au lit. Le mobile permet au lit d'être un espace qui nous relie au monde. Et cette possibilité, être en lien direct avec le monde depuis son lit, fut longtemps réservée à de rares personnages. Les rois, dont les lits étaient au moment du lever du coucher des espaces publics, ou en tout cas d'un public choisi.
Marcel Proust.
Hugh Hefner. Oui, mais le public était assez limité.
C'était céleste.
C'était en gros céleste, ouais. Tandis que Hugh Hefner, le patron de Playboy, par exemple, a fait de son lit un lieu de travail, connecté au monde via des téléphones, il y en avait plusieurs, et via des écrans de télévision. Et puis surtout, le personnage le plus important, Alexandre le Bienheureux, héros du film du même nom, le film d'Yves Robert, hein, 1968, c'est pas rien de faire un film en 67, tourner un film en 67 qui annonce tout ça. Bon. Donc, héros du film du même nom, qui, souvenez-vous, mettait en scène Philippe Noiret en une sorte d'ermite qui avait décidé de ne plus quitter son lit et avait pour cela installé tout un système de poulies et d'adjuvants, dont son chien, qui lui permettait de faire tout ce qu'il voulait depuis son lit. Et bien, ce qui est très étonnant, c'est que les smartphones permettent de faire de nous, hein, de nous tous, à la fois des monarques, des Hugh Hefner et des Alexandre le Bienheureux. Nous pouvons y faire des courses. Nous pouvons nous y faire apporter le journal, voir ce qui se passe dans le monde, travailler, regarder, être regardé. D'où ma théorie finale, qui là emporte tout. Le smartphone n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, l'instrument de la mobilité. C'est au contraire l'instrument de l'immobilité. Et je dirais même plus, c'est l'instrument du coucher. Préfigurant en cela un stade nouveau de l'humanité qui, après être passé des quatre pattes à la station debout, va s'allonger sur le dos et ne plus jamais bouger. Ce qui sera, je pense, moins fatigant et meilleur pour le climat.
Daniel Moreau, un commentaire sur cette analyse ?
No comment,
au fur et à mesure. Interprétation.
Jusqu'à un changement de paradigme dans l'histoire de l'humanité, quand même.
Exactement, mais vous en êtes arrivé là. Merci Xavier, on se retrouve la semaine prochaine.
Le rendez-vous, Laurent Goumard.
Plateau, même pas peur avec vous, Tania Moureau, artiste, un parcours qui commence dans les années 60 avec un travail qui expérimente plusieurs formes, la photographie, on en a parlé tout à l'heure, l'installation, la musique et le son, on va en parler, les wall paintings, l'intervention urbaine et la vidéo depuis les années 90. On retrouve ces motifs dans votre exposition Ad Nauseam au Macval, c'est le musée d'art contemporain du Val-de-Marne à Vitry. D'abord, avant même d'entrer dans l'exposition, à quel moment ce titre, Ad Nauseam, s'est-il imposé ?
Au moment du montage de la vidéo.
De la grande vidéo, donc dans la salle, on va parler tout à l'heure en effet de ce qui s'y passe.
Donc, ça s'est imposé comme ça.
L'exposition joue sur une tension entre extérieur et intérieur du musée. On va d'abord faire l'extérieur. Vous avez disposé sur la façade du Macval un wall painting de 40 mètres de long, composé de très grandes lettres étirées, rectilignes, noires et blanches. Une typographie qui rend le texte presque illisible, au bord de l'abstraction géométrique. Et la phrase que l'on peut lire si vraiment on prend excessivement le temps de le faire, mais on peut, la phrase est « Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter ». Plus loin, même dispositif de wall painting, plus ramassé, avec cette phrase « Même pas peur ». Je sais que les phrases, vous les choisissez toujours en rapport avec le lieu d'exposition. En quoi vous les avez pensées précisément pour le Macval, Tania Moreau ?
Alors, ces phrases, d'une part, je les choisis en fonction du lieu d'exposition, en fonction de la dimension et aussi en fonction de mes humeurs. Donc, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir revenir dans la rue. Et c'est pour ça que j'ai pensé tout de suite à Même pas peur. D'abord, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on dit tous à la récré. Et aussi, pouvoir exposer ad nauseam. Pouvoir intervenir au Macval dans une salle qui fait 1350 mètres carrés et faire une seule installation vidéo et son, je pense qu'il fallait vraiment oser.
Et n'avoir même pas peur, oui. Lucille.
Il y a une phrase que vous répétez et que vous affichez beaucoup, c'est « I have a dream ». C'est pas la première fois que vous l'affichez. Votre travail sur le discours de Martin Luther King, vous l'aviez déjà fait en 92, vous l'avez fait à nouveau tout au long des années 2000, et vous l'avez traduit aussi en plusieurs langues et plusieurs dialectes. Quel artiste étiez-vous à cette époque et pourquoi avoir repris cette phrase ?
Cette phrase, pour moi, est vraiment la pierre de touche de la démocratie. On dit c'est la phrase de Martin Luther King, mais en fait c'est la phrase de tout le monde. Et rien n'a changé. Rien n'a changé. I have a dream que les enfants noirs et blancs aillent dans la même école, etc. Mais I have a dream que finalement tout le monde soit frère et sœur, qu'il n'y ait pas de différence. Quand on voit ce qui se passe par rapport au genre et les histoires autour de ça dans l'école, c'est terrifiant, je veux dire. Et c'est là où vraiment je dis « I have a dream ». Malgré tout ce qui se passe, je n'abandonne pas « I have a dream ».
Quelle est la première phrase ou les premiers mots que vous avez écrits pour ces wall paintings dans les années 70, Tania Moreau, quand vous avez commencé ce travail ?
Ni.
Commencez par la négation.
Oui. C'est-à-dire, je ne suis d'accord avec rien de ce que la société occidentale propose. Et donc, dans la ville, j'ai mis un grand nid de 3 mètres sur 4. C'était à Paris, 54 affiches de 3 mètres sur 4 dans Paris.
Et comment vous avez construit cette typographie, donc des lettres très étirées, noires et blancs, rectilignes ?
C'était au début des années, 80. Juste au moment où commençait l'ordinateur. Et on était tous en train de chercher des possibilités de trouver de nouvelles formes de typographie qui soient modernes. Enfin, moderne, ça ne veut rien dire, mais très actuelles. On voulait oublier le passé. Et donc, c'est de cette manière que j'ai fait. Je viens aussi du minimalisme. Et donc, j'ai étiré.
À propos d'écriture, je disais que quand vous étiez jeune, vous vouliez écrire. Écrire quoi ? C'était de la littérature ?
Oui, de la littérature, parce que en fait, j'avais pas du tout pensé à être artiste. Bon, au départ, quand j'ai commencé à être artiste, j'ai fait comme tous les jeunes, j'étais peintre. C'est au bout peut-être 3 ou 4 ans de pratique picturale que j'ai décidé que c'était vraiment pas. C'était pas ça que je voulais.
Quelle était justement cette peinture que vous aviez mise en place, des peintures médicales ?
Alors au départ, j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai fait de la peinture gestuelle et ensuite j'ai fait une sorte de peinture médicale et des peintures où je copiais, enfin, je copiais des planches anatomiques, etc. Mais c'était de la très, très mauvaise peinture. Hein. Vraiment, c'était de la peinture d'étudiant. Et en revenant de la Documenta de 1968, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça. Et j'ai eu envie vraiment de commencer autre chose. Et j'ai brûlé toutes mes peintures.
C'est l'autodafé de 1969
De 68.
De 68, oui, d'accord. Oui, en plus, au moment où...
Oui, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir.
Comment aviez-vous organisé cet autodafé donc...
Eh bien, j'avais un ami qui était médecin à l'hôpital de Villejuif. Et je lui ai demandé si je pouvais brûler mes toiles près de la maison des internes. Il m'a dit oui, parce que bon, entre jeunes, on était d'accord. Et puis j'ai un autre copain qui a transporté toutes mes toiles. On a fait un tas et j'ai mis le feu. J'avais un copain qui était photographe, donc qui a photographié.
Le geste, ouais.
Voilà, il y avait un galeriste aussi, du reste.
C'était qui ?
C'était Jean Larcade. Ah. Et à partir de là, j'ai complètement changé ma pratique artistique.
Lucille Comeau.
Alors, je reviens au Macval. On entre dans une salle et on est absorbé dans une expérience sensorielle. Face à nous, trois immenses projections côte à côte. C'est une installation vidéo monumentale qui montre la destruction massive de livres de toutes sortes, jeunesse compris, dans une usine de recyclage. Donc, on voit des bulldozers broyer des milliers de livres, le tout dans le vacarme d'une bande-son que vous avez créée avec une équipe de l'IRCAM. On en écoute un extrait. Tania Moureau, comment est-ce que vous avez travaillé cette bande-son qui ne colle pas aux images des sons de l'usine ? Quels sont vos apports par rapport au son initial ?
Donc, au départ, il y a le son de l'usine. En fait, moi, je travaille le son toujours en créant d'abord un drone ou une masse sonore. C'est très, très important. Donc, on a recherché à l'IRCAM quelle était la fréquence de cette masse sonore de l'usine. Et on s'est aperçu que c'était un fa dièse. Il y a un fa dièse qui est à l'arrière. Et voilà. À partir de là, mon cahier des charges, c'était on crée une masse sonore et à l'intérieur de cette masse sonore, il faut que plein de micro-événements se produisent.
Ouais.
Donc... Il faut aussi, quand on rentre dans cette pièce, que ça envahisse tout l'espace. Et que lorsqu'on se déplace dans la pièce, on sente derrière son dos qu'il y a aussi quelque chose. J'ai essayé de créer une tension entre l'image et le son. Le son n'illustre pas l'image et l'image n'illustre pas le son. C'est presque comme une tension entre un triangle et un rectangle. Mais vraiment, ce qu'il y a de très important, c'est que le son... crée le volume. Donc, il y a à peu près 1000 samples dans cette composition sonore. Il y a ma banque de sons, la banque de sons de l'IRCAM, tout ce que nous avons prélevé dans l'usine, qui n'était pas nécessairement une usine de pilonnage. Hein. En réalité, le pilonnage dans cette usine est tout petit, mais c'est la manière du cadrage et le fait qu'il y ait ces trois écrans qui rend cette sensation de destruction ultime. Le son n'a pas de début et n'a pas de fin. Il est aléatoire pendant toute la durée de l'expo. Les images elles-mêmes...
Il y a une dramaturgie dans les images. Une dramaturgie entre les trois écrans.
Moi, je n'ai pas du tout...
Non, mais d'accord.
Moi, personnellement, je n'ai pas pensé en termes de dramaturgie. J'ai juste pensé la dramaturgie.
Tania Moreau.
Si dramaturgie il y a, c'est que le visiteur ait cette sensation d'immense destruction, d'une machinerie qui détruit, détruit, détruit. Parce qu'il n'y a aucun être humain. Ce ne sont que des machines qui, on ne les voit même pas détruire en fait. Elles déplacent. On voit des camions arriver qui déversent des milliers de livres. On voit des pelleteuses qui ramassent des centaines de livres et on voit des grues qui balancent des livres sur des tapis roulants. On ne voit pas vraiment la destruction parce que la déchiqueteuse n'est pas visible.
La destruction vient du son, en fait. C'est le son qui crée l'idée de la destruction. Quand vous êtes allé dans cette usine, quel était l'élément déclencheur pour faire cette vidéo, c'est-à-dire pour aller vers cette usine de recyclage et de pilonnage?
Depuis très longtemps, je travaille sur, finalement, on va dire, une fois que l'humain disparaît, on tombe dans un système qui écrase, qui détruit, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, depuis 2002, c'est un peu mon sujet. Juste avant cette vidéo, j'ai fait une vidéo qui était montrée du reste au musée de Saint-Étienne, qui s'appelle Once Upon a Time, et qui a été montrée, j'adore, excusez-moi d'en parler.
Allez-y.
Elle a été projetée sur le City Hall de Toronto, en 117 mètres de long sur 87 mètres de haut. Donc là, voilà. Et en fait, c'est la destruction systématique de la forêt par une abatteuse. On voit cette abatteuse qui scie l'arbre, qui l'avale, etc. Et donc, c'est un peu, c'est ça que je veux montrer. Le système un peu à la Métropolis, le système génère de la destruction. Et cette destruction, si on ne garde pas l'humain, voilà, on va...
Lucille ?
Tania Mouron vous a demandé à vous aussi d'apporter un son que vous aviez envie d'entendre et vous avez choisi ça. Quel est ce son, Tania Moreau ?
C'est l'ionisation de Varèse. Pour moi, tout commence là et tout s'arrête là.
Et alors même que vous avez rencontré John Cage, tout commence et s'arrête avec Varèse.
Pour moi, c'est vraiment exceptionnel.
Une pièce des années 30.
John Cage, pour moi, c'était, comment dirais-je, j'étais très très jeune quand j'ai connu John Cage et c'était... Moins émotionnellement, c'est une rencontre moins émotionnelle que la découverte de Varèse et moins instructive, plus intellectuelle. Pour moi, le silence n'existe pas. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec ce problème de Cage. Bon, d'accord, ce qu'il voulait dire, c'est le silence des instruments. Et non pas, mais quand les instruments se taisent, on est dans le bruit permanent. Sinon, c'est la mort ou le sommeil.
Eh bien, on va écouter justement un autre instrument, autre son. Ça aussi, c'était votre second choix, mais on l'a gardé, Tania Mouraud. Son klezmer.
C'est
pas klezmer,
pas
c'est Rome.
Pas klezmer, c'est Rome.
Rome.
Et c'est les tarafs des Haïduk, roumains. Ma famille, une partie de ma famille est originaire de Roumanie. Et je trouvais ça, d'abord, j'adore. Et je trouve que c'est toujours intéressant, bon, de ce que moi j'appelle high and low, c'est-à-dire populaire, la musique populaire et la musique savante. Et j'ai le même rapport avec l'une ou l'autre. En plus, c'est intéressant de dire, voilà, les Roms, aujourd'hui.
Sur une photographie dans le catalogue, on vous voit avec une clarinette. Vous êtes musicienne, par ailleurs ?
Je suis... pas du tout musicienne, je suis extrêmement mauvaise. Il s'avère qu'une fois, je suis tombée tout à fait par hasard sur à la télévision sur David Krakauer et j'ai décidé d'apprendre la musique klezmer. Et pendant 4 ans, j'ai travaillé comme une folle pour apprendre la musique klezmer. Le lendemain, j'ai été m'acheter une clarinette. Je pensais qu'on apprenait la clarinette en 4 mois, mais pas du tout, malheureusement. Donc, je suis extrêmement mauvaise, mais j'adore le klezmer et j'ai quand même fait un masterclass avec David Krakauer qui, voyant mon incompétence absolue, m'a appris les extended techniques. Parce que j'avais un groupe de musique expérimentale et ça m'a énormément servi. Derrière la beauté, l'horreur.
Et d'ailleurs, dans l'île, on considère qu'au-delà de la mer, il y a une autre île, et c'est l'île de la mort.
Merci à nos invités Naomi Kawase. Still the Water sortira en salle le 1er octobre prochain. Et Tania Mouraud, l'exposition Ad Nauseam, c'est au Macval à Vitry. Le catalogue apparu aussi aux éditions Macval. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...
Est-ce que tout ceci n'est pas dérisoire? J'ai créé un monstre.
Un beau monstre.
Je dois vous laisser, il faut que je retourne travailler.
Merci. Merci, monsieur Saint-Laurent.
On en parle de moi demain, c'est super. Demain, émission spéciale en direct et en public au Centre Pompidou. Gros plan sur Bertrand Bonello, son exposition, son film, avec à ses côtés le producteur et parolier Maxime Schmitt. Et il y aura aussi une session...
Slow Joe and the Ginger Accident.
Ça y est, demain. Hippolyte Desannonces.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Adrien Azelli et Hippolyte Babilotte. Journal de la culture, Zoé Sfez, chronique Xavier Delaporte, à la technique Alex Dang, Pierrick Monsigny, à la réalisation Thomas Beau et à la traduction Catherine Cadou. Vous pouvez réécouter, podcaster et commenter l'émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
Verdict, Xavier Delaporte ?
C'est meilleur, Hippolyte.
Très bien, il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.